I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Merci, c'est cette petite fille migrante née sur la mer, à bord d'un bateau qui venait de sauver sa maman de la noyade. En 2018, Émilie Satt et Jean-Carl Lucas ont raconté cette histoire en chanson lors de l'Eurovision. Cette série raconte l'histoire derrière la chanson. Les deux artistes vont vous dévoiler leur épopée pour retrouver la petite Merci. Vous l'entendrez elle aussi, ainsi que sa maman Taïwo. Pour la première fois, la jeune femme a décidé de livrer son témoignage, raconter son voyage, sa vie de réfugiée et son combat pour sa fille Merci. Vous l'entendrez dans les deux derniers épisodes de cette série. Vous écoutez Nude et la suite de l'Odyssée de Merci. Cette série documentaire s'écoute dans l'ordre de publication des épisodes. Si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à commencer par le premier chapitre. Épisode 3. Équilibriste. Plusieurs mois avant l'Eurovision, Émilie Satt et Jean-Carl Lucas ont retrouvé Merci et sa maman. Elles sont dans l'un des plus grands camps de migrants à Catane, en Sicile.
À partir de ce moment-là, on va évidemment avoir de leurs nouvelles régulièrement. On se débrouille pour leur faire passer quelques affaires, un téléphone notamment pour pouvoir communiquer aussi avec elles. On leur envoie un colis avec plein de choses dedans, en essayant de voir aussi ce qu'on peut leur envoyer. Parce que, en fait, derrière chaque action, quand tu t'engages sur le chemin d'aider... des migrants. Derrière chaque action, il y a potentiellement un effet secondaire qui peut être négatif, un effet boomerang. Et donc, il faut faire attention à la bienveillance absolue. Là où tu pourrais dire, je vais leur envoyer plein d'argent, ça va les aider. Non, en fait, si tu leur envoies de l'argent dans un camp de migrants, c'est les mettre en danger. Si tu leur envoies des choses trop précieuses, tu les mets en danger. Donc, il fallait faire le bon colis avec les bonnes choses, avec des vêtements, pour Merci, à sa taille, des sous-vêtements, quelques soins, de la crème, des produits comme ça du quotidien, un téléphone. Et à ce moment-là, on leur envoie dans le colis une longue lettre, je ne sais plus combien elle fait, 4 pages peut-être, manuscrite, où on se présente en fait, simplement, parce que elles ne nous connaissent pas, quoi. Et c'est quoi ces deux zozos qui chantent mon histoire et qui m'écrivent, d'un seul coup s'intéressent à moi, enfin... À ce moment-là, on est vachement humble, parce que maintenant, on l'est plus du tout. Mais en tout cas, on se présente et c'est très émouvant. Je me souviens, c'est encore une fois un contraste improbable. On était dans un avion pour je ne sais plus quel concert en Europe et j'étais là avec mon carnet de correspondance et je rédigeais ce courrier que j'allais expédier dans un camp de migrants en Sicile. Enfin, c'est complètement schizophrène.
On se dit aussi, à ce moment-là, on se dit, mais est-ce qu'elle aurait envie de nous parler, en fait ? On ne sait pas, ça se trouve, elle s'en fout, ça se trouve, ça ne l'intéresse pas, ça se trouve... c'est ça aussi, hein, on ne sait pas du tout quel genre de personne elle est aussi, à ce moment-là, quoi.
Je me souviens que dans la lettre que je lui ai écrite, j'avais aussi écrit les paroles de la chanson, pour qu'elle puisse les lire et comprendre ce que je racontais. J'avais traduit les paroles en anglais pour qu'elle comprenne... qu'elle puisse vraiment lire l'histoire.
Maintenant qu'elles sont localisées, le but, c'est bien sûr de les aider. Émilie et Jean-Carl s'entourent d'avocats, d'associations et de leurs contacts sur place. En parallèle des émissions de télé, des paillettes et des studios feutrés, ils se démènent dans l'ombre avec l'administration italienne.
Il y a un objectif, c'est qu'elles sortent de cet immense camp qui est quand même très violent et dans lequel une maman célibataire et son bébé n'ont rien à faire. Donc, il y a pas mal d'allers-retours, de dialogues avec différentes administrations. C'est très compliqué. C'est, en gros, pour la faire courte, nous, on est français. On parle avec... Donc, Alessandro, il est italien. Taïwo, elle parle nigérian et un anglais qu'on parle au Nigeria. Donc, c'est quand même un anglais, je te raconte pas, c'est compliqué à comprendre. Les avocats des associations qui nous aident sont italiens, ne parlent pas anglais ou très peu. Donc, c'est vraiment un gros bordel de communication. Et donc, tout est long, tout est compliqué. C'est des dizaines de coups de fil à toutes les personnes qu'on connaît dans le milieu associatif, dans le milieu qui travaille autour des migrants à Paris, pour savoir, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui serait susceptible de faire le lien entre cette maman et cette petite fille qui se trouve dans un camp excentré à Catane, en Sicile. En fait, ce qu'on fait à ce moment-là, et c'est ce qu'on fera après pendant 3 ans, c'est de toujours essayer de faire le lien entre toutes les personnes qui sont les experts. Parce que nous, qu'est-ce que tu veux qu'on aille là-bas, devant le camp de migrants, pour essayer de les sortir ? Ça n'a aucun sens. Donc, notre rôle majeur pendant toutes ces années, ça a été de trouver toujours les bonnes personnes pour nous aider.
Au même moment, à des années-lumière de tout cela, il prépare l'Eurovision et joue les équilibristes.
Quand même, l'Eurovision, on est d'accord que quand tu penses Eurovision, tu penses paillettes, exubérance. Il ne faut pas oublier que c'est un show télé. Il faut y aller, il faut faire le show, même si tu le fais à ta façon. Donc, bien sûr, il y a plein de contradictions. On veut s'habiller sobrement, mais on a la chance d'être vêtu par Jean-Paul Gaultier. Donc, tout est comme ça, pétri de contradictions. Et en même temps, on se dit, c'est pas parce qu'on chante une chanson qui raconte l'histoire d'un bébé migrant et de sa maman. Enfin, je veux dire, le message sera pas plus fort si on est sapé en guenille.
Finalement, le couple choisit la sobriété, une tenue de scène très simple, tout en noir.
En fait, on voulait que le message soit plus fort, donc on s'est un peu caché derrière nos habits noirs, même si certes c'était du Jean-Paul Gaultier, et j'en suis très contente. Mais on nous a proposé plein de mises en scène hyper cheloues, à base de couvertures de survie sur scène, de choses vraiment qu'on trouvait un peu putassières, en fait un peu racoleuses. Nous, on se disait que la chanson se suffit à elle-même et que notre présence en noir pouvait suffire. En fait, ça, tout le long de cette histoire, on aura été pris... entre l'absolue nécessité de garder de la pudeur, de l'humilité, de s'effacer en fait derrière le message, de pas en mettre plein la vue. Mais en fait, on a toujours été pris entre ces deux feux-là, de se dire il faut quand même malgré tout qu'on existe et qu'on fasse exister notre chanson et qu'on en parle, tout en essayant toujours de s'effacer, qu'il n'y ait pas de mélange des genres. En fait, ça a été très compliqué ça. Mais voilà, il faut à ce moment-là qu'on joue notre carte, qu'on joue cette chanson. En pensant aussi à notre carrière et à ce moment qui est très important pour nous.
Peu de temps avant l'Eurovision, se passe ce que vous redoutiez, un autre journaliste retrouve Mercier et Taïwo.
À peu près 3 semaines avant l'Eurovision, on apprend que le journaliste d'une grande chaîne de télé française et aller retrouver Taïwo et Merci à Catane, dans le camp de migrants. Il a contacté Taïwo en pensant que c'était lui qui l'avait retrouvé, que personne ne l'avait retrouvé.
Il nous dit « je voudrais y aller, je voudrais créer un portrait croisé, je voudrais que vous vous rencontriez, etc. » On lui dit que non, que c'est dangereux, qu'il vaut mieux pas. Il se débrouille pour contacter Taïwo sur son téléphone, pour lui faire passer des messages, en lui expliquant qu'il veut venir la voir, qu'il veut la rencontrer, qu'il veut lui parler de la chanson, savoir s'ils nous connaissent, si elles nous connaissent. Et enfin, il cherche un peu à faire exactement l'inverse de tout ce qu'on lui recommande de faire. C'est-à-dire, concrètement, nous, on prend ça comme clairement, il veut son scoop, il s'en fout de les mettre en danger. Donc, il se retrouve finalement devant le camp de migrants à Catane, avec ses 2 caméras, une pour filmer Merci Taïwo et une pour le filmer, lui, en train de filmer Merci Taïwo. Et il les fait sortir du camp, ce qui n'était pas du tout conseillé. Et il fait quelques images comme ce qu'on imaginait qu'il ferait, c'est-à-dire des images un peu pathétiques d'une maman paumée à qui il pose des questions avec un montage rapide où il donne en fait l'impression qu'elle découvre qui on est avec lui. Et ça, c'est super violent pour nous parce que c'est pas du tout la vérité. En fait, il lui montre la vidéo de la chanson. Et elle réagit un peu sonnée.
Elle dit, oui, elle dit, j'ai besoin qu'on m'aide, j'ai besoin d'aide, évidemment. Enfin,
elle dit, I need a job, je me souviens.
Oui, voilà, évidemment, elle dit ça parce que c'est ce qu'elle ressent, évidemment. Quoi. Enfin, elle est dans une situation vraiment très, très instable. Mais ça nous met dans... Enfin, il donne l'impression qu'on ne s'intéresse pas du tout à elle, et, alors que ce n'est pas du tout le cas.
Super blessant à ce moment-là, oui.
Donc Eric, il sort l'info parce qu'il sait, il sait que le reportage de cette chaîne va être diffusé. Et donc, il nous prévient, il nous dit, voilà, moi, j'ai fait bosser des gens, ma radio s'est investie aussi dedans, s'est engagée, donc il faut que je donne l'info en premier, c'est les règles du jeu, etc. Et donc il le fait, mais de façon beaucoup plus factuelle et beaucoup plus respectueuse, quoi.
Il nous explique ça, qu'il y a l'investissement derrière de sa radio, et puis aussi il nous dit la meilleure façon de faire en sorte que les informations sortent pas d'une mauvaise manière, c'est de les sortir en premier, et comme ça, a priori, quand tu délivres l'info en premier, c'est toi qui maîtrises le ton.
La bataille des scoops se termine ainsi, et finalement, tout cela n'aura pas de conséquences pour Mercier et Taïwo. Pour Émilie et Jean-Carl, tout s'enchaîne, et la pression monte.
Avant la finale de l'Eurovision, on est 10 jours avant, sur place, à Lisbonne, où on est vraiment dans un tunnel de travail, puisqu'on répète tous les jours, il y a des répètes parfois 2 fois par jour, et il y a beaucoup de sollicitations médiatiques, des conférences de presse tous les jours, et donc on est vraiment en mode Eurovision, et là c'est vrai qu'on est concentré sur notre objectif, qui est quand même de faire cette finale du mieux possible, etc., de chanter notre chanson. Donc Taïwo et Mercy sont toujours dans un coin de notre tête, mais... C'est vrai qu'à ce moment-là, on est concentré sur ce qu'on a à faire.
Le matin du grand concours de l'Eurovision, vous parlez pour la première fois avec Mercier et sa maman.
C'est vraiment un hasard, en fait. On avait réussi à leur envoyer un téléphone sur place. C'est vraiment la magie des dates, que la première fois qu'on peut se voir, elle et nous, en face à face, et vraiment s'observer. C'est le matin de cette finale qu'on attend depuis 4 mois, où on est en surstress. Taïwo, qui était magnifique, super bien coiffé, comme toujours, avec sa petite Mercy dans les bras, et on se regarde, et je crois qu'on a l'air euphorique, quoi, vraiment, on a sourire jusqu'aux oreilles. Ça fait 4 mois qu'on se prépare pour cette journée, pour cette soirée, pour ces 3 minutes pendant lesquelles on va représenter la France avec cette chanson qu'on a écrite, qui raconte leur histoire à elles. Donc en fait, les circonstances, elles sont incroyables et on se voyait, quoi. C'était réel. En fait, on est au bon endroit à ce moment-là. On est au bon endroit au bon moment et on sait que sur scène, ce soir, on va avoir leur image dans la tête pendant qu'on chante cette chanson. À ce moment-là, c'est un shoot de bonheur juste avant de monter sur le ring, quoi.
Donc le grand soir arrive, vous allez jouer en direct devant 180 millions de téléspectateurs et vous êtes annoncé parmi les favoris.
Et donc en fait on y croit grave, quoi. On se dit mais c'est pas possible, ça peut pas se passer autrement, on va gagner, ou en tout cas on va faire un truc,
on y croit
à mort, en train de se passer un truc, quoi. Il va se passer quelque chose là ce soir.
Les Eurofans qui étaient euphoriques aussi, et puis la directrice générale de France Télé qui est venue en personne.
Pour la première fois.
Déplacée, ça faisait des années que c'était pas arrivé. On sentait quand même que tout le monde y croyait dur comme fer, quoi. C'était notre année. Bon, la suite a prouvé que non.
Comme quoi, hein. Et donc, bon, il y a énormément de déceptions à l'annonce des résultats. On est très, très déçus. Tout le monde est très déçu autour de nous. Et quand on rentre...
Qu'est-ce qu'on a chialé, putain.
C'était surtout le lendemain.
Oh, putain, le lendemain. Ouais. Ce matin, ce lendemain de finale. Mais je crois que j'ai jamais ressenti une telle... lassitude physique, en fait, c'est tout le corps qui se relâche. Je pense que ça doit être ce que ressentent les grands sportifs après les JO, j'en sais rien. Mais il y a un truc quand tu te réveilles le matin, surtout quand t'as pas gagné, hein, soyons clairs. On s'est réveillé, mais je me souviens, j'avais l'impression que mon corps était lourd, qu'il pesait 10 fois son poids habituel. Et, tout, mais que mes joues tombaient vers le bas, tu sais, c'est une espèce de down général. Et avec des larmes. Et tout le monde était tellement triste, mais fier et triste en même temps. Enfin, c'était vraiment une émotion énorme. C'était une gueule de bois énorme, quoi.
Vous l'aurez compris, Madame Monsieur ne gagne pas, ils finissent 13e. Un résultat décevant au vu de l'engouement pour la chanson. Mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Et cette aventure, elle est loin d'être terminée.
Quand on rentre à l'hôtel après la finale, il y a une petite fête d'organiser avec toute la délégation française, notre label, nos amis. Et puis Eric vient nous voir et il nous dit « Regardez, je vais vous montrer, ça vaut toutes les victoires à l'Eurovision, ça. » Et il nous montre son portable et il nous montre une vidéo que lui a envoyée Alessandro, qui est là-bas, en Sicile, et qui a regardé l'Eurovision dans le camp avec Taïwo et Merci. Ils ont installé une télé.
Il s'est débrouillé pour faire rentrer une télé dans le camp pour que Merci et sa maman puissent suivre l'Eurovision
exactement.
En direct.
Et donc, il nous montre la vidéo où il y a une espèce de mise en abîme où on voit Taïwo et Merci en train de nous regarder à la télé en direct, en train de chanter leur histoire devant toute l'Europe. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, il y a beaucoup d'émotions parce qu'on se dit on a tout gagné, en fait. Il n'y a rien de plus beau, en fait.
Et Taïwo nous a écrit en nous disant qu'elle était très fière de nous. Quand on lui a écrit en lui disant « On est désolé, on a fait tout ce qu'on pouvait et tout. » Je me souviens que une des premières personnes à qui j'ai eu envie d'écrire en disant « Merde, je suis désolée, on n'a pas fait une meilleure place que ça, mais vraiment, on y a mis tout notre cœur. » Et elle m'avait répondu, elle m'avait réconfortée, elle, depuis le camp dans lequel elle se trouvait, un gentil message. Je crois qu'elle m'appelait ma star, enfin, genre un truc improbable, quoi. Et ouais, je pense qu'à partir de là, on était vraiment liés, quoi.
La suite dans l'épisode 4, à suivre. Je suis Julie Marceline Pujol, journaliste depuis plus de 10 ans, et Nude est un podcast entièrement indépendant. Pour m'écrire ou réagir à ce témoignage, retrouvez-moi sur Instagram, @nudepodcast. N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne pas manquer les épisodes à venir. Enfin, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux et surtout à en parler autour de vous. À très vite.
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.